Bonjour, je suis Michael Imperioli. Pop, 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 c'est parti.
Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. L'amour est une fête, c'est un fait. Mais pour nous, la fête, c'est quand nous recevons des invités que nous nous faisons une fête d'accueillir. Et c'est le cas aujourd'hui avec Guillaume Calais. Mais nous ne sommes pas les seuls à lui faire la fête. Tiens, je connais un certain Babèche, par exemple, qui vit dans un box. Pas par choix, hein, mais par nécessité, comme la plupart de ceux qui vivent dans des box. C'est pas drôle de vivre dans un box. Et pourtant, quand Babèche entend de loin, car Babèche a Louis-Fine, le pas joyeux et conquérant de Guillaume qui s'approche et qu'il le découvre vêtu d'une avantageuse veste cintrée de type Rio, d'une culotte Mulburn super stretch à fond intégral et coiffée d'une bombe. Car oui, on peut se mettre une bombe sur la tête, il se met à piaffer, il s'agite, il s'émeut et manifeste son émoi par de sonores et contagieux. Allez, je vous fais pas languir plus longtemps. Vous l'avez compris, Babèche est un cheval, un magnifique cheval, sur le dos duquel Guillaume participe régulièrement à des concours hippiques en remportant la plupart. Et on se félicite que l'acteur, producteur, réalisateur, en pleine retombée de l'affaire dite Weinstein, ait fait ce choix courageux avec Babèche de sauter tout ce qui ne bouge pas, à savoir les barres impavides des fameux concours. Oui, l'amour est une fête. Faites l'amour, comme le conseille le film, dont Guillaume vient nous parler, mais toujours avec des partenaires aussi consentants que Babèche.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Guillaume.
Bonjour. Je reconnais une certaine plume.
Alors vous, on peut dire que vous ne vous contentez pas de murmurer à l'oreille des chevaux. Hein.
Non, non, c'est vrai. Non, non, je saute avec eux. Mm-hmm. Ouais, ouais, je... On s'amuse bien.
Très bien, vous verrez que je ne me débrouille pas trop mal non plus dans ce domaine. On va en parler tout à l'heure au menu de Pop-pop-pop. Film en peignoir en satin, pour vous plonger au cœur du milieu porno des années 80, toile de fond du film « L'amour est une fête » de Cédric Anger dont nous allons parler. À mes côtés, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Quel est votre nom d'actrice des films X? Déjà, je rappelle la règle, hein, pour trouver son nom d'acteur de film X, il suffit de prendre le nom de son animal de compagnie et le nom de la rue dans laquelle on a grandi.
Phoebe principale donc.
Pardon.
Phoebe principal.
Phoebe principal. Ouais. Et vous, Guillaume?
Arthur Cézanne.
Arthur Cézanne. Je suis Ulysse Pierret. Et cette émission va être chaude. Guillaume, est-ce qu'il y a des questions qui vous rendent fou?
Est-ce qu'il y a des questions qui me rendent fou? Franchement, là, comme ça, non, je... Ou alors celle-là, ouais. Parce que j'ai du mal.
Je vous demande ça parce que moi, depuis 2729 émissions, il y a une question qui m'obsède.
Ouais.
Cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Parmi mes préférées, il y a celle de l'ex-pornstar, désormais écrivain, Katsuni.
La pop culture, c'est l'art de la société de consommation. Et ce n'a rien de péjoratif quand je dis ça. C'est, ce sont toutes nos références, que ce soit cinématographiques, musicales, publicitaires, qui participent à notre identité, avec lesquelles on grandit, avec lesquelles on se construit et grâce auxquelles on communique. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas vu telle série, tel film, si on ne connaît pas tel chanteur, on s'isole. Donc c'est une magnifique, une très belle manière en fait de communiquer et de vivre en société.
Et pour vous, Arthur Cézanne, c'est quoi la pop
culture? Moi, j'ai c'est sans vouloir du tout faire de la lèche, mais je vais dire c'est Antoine de Caunes. Mmh. Ouais, ouais. Ce qui m'évoque la pop culture, c'est rap, 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 rap. Ouais, j'ai grandi avec ça, même si c'est difficile et douloureux à entendre.
Vous dites ça pour m'attendrir?
Non, 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 je le pense vraiment. Non, non, c'est vrai.
Bon, bah disons que j'en suis un petit morceau. Ça vous
arrive, Charline? Moi, je sais pas, j'étais trop jeune, j'ai pas.
Cette émission commence très mal. Le porn, c'est pop, on va le prouver tout de suite dans la suite de Pop Pop Pop. Mais avant ça, on va écouter le dernier morceau de Father John Misty. Disappointing diamonds are the rarest of them all.
Bursting out of me.
Disappointing Diamonds are the rarest of them all. C'est un morceau signé Father John Misty, retrouvé sur l'album God's Favorite Customer. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec celui à qui l'immense Jean Rochefort a dit un jour « Mon cher, vous avez une tête à faire du cinéma ». Bon alors, il l'a peut-être
fait bien comme ça,
mais bref, qui est-il ? Réponse avec son pop-portrait. Alors, votre pop-portrait, Guillaume, c'est votre portrait, bien sûr, mais...
À base de pop-pop-pop-pop.
Et c'est signé Charline Rourourou.
Certes, une tête à faire du cinéma, mais aussi et surtout, même si on l'a répété ici à maintes reprises, la notion de mise en danger quand on fait du ciné est aussi pertinente que celle de joie intense à la lecture du roman Le Marché des Amants. Aussi et surtout donc, disais-je, un certain goût du risque, en se faisant d'abord maltraiter et infantiliser par l'immense Rochefort dans Barracuda, puis par l'immense Jean-Yann dans Je règle mon pas sur le pas de mon père, et aussi en acceptant de se laisser diriger par l'immense... Comment il s'appelle ?
Si, le mec, les morsures de l'aube, là, qui faisait de la télé.
Non,
ça me reviendra. Le goût du risque, je vous dis, qui se ressent chez Jolivet, Schatzberg, Boyle, Samuel, Saada, Carion, Niclou, Duguet, Téchiné, Offenstein. Et puis, comme il n'est pas à un danger près, notre invité s'est aussi affûté derrière la caméra, d'abord avec mon idole, avec un personnage de mec de télé dont je ne serais pas étonné d'apprendre d'ailleurs aujourd'hui qu'il a été inspiré par un réalisateur précédemment cité, mais c'est une autre histoire. Et devant la caméra aussi, vêtu en lapin, parce que, après tout, pourquoi pas. Suivront, ne le dit à personne, les petits mouchoir, Blood Ties, Rock'n'Roll, ou après la combi intégrale Lapin, notre invité mutant Benjamin Castaldi meets un Bogdanov, ce qui est quand même assez gonflé. Notre invité n'est pas qu'un lapin ou une créature non identifiée, il est aussi une voiture, Flash McQueen dans Cars. Et aujourd'hui, Guillaume Goudurix Canet ne déroge pas à la règle en venant nous parler d'un nouveau rôle couillu, mais c'est un peu normal aussi pour parler d'un film de cul, du coup.
Oh, joli. Un rôle couillu, Guillaume.
Couillu, je sais pas, mais en tout cas, c'est un cinéma que j'ai envie de défendre parce que c'est... vraiment un cinéma profond.
Faut faire super gaffe à cette émission.
Très attention.
Tout va avoir un double sens. D'accord.
Non, mais c'est un metteur en scène d'abord à qui j'avais très envie de retravailler, qui est Cédric Anger, qui j'avais fait La Prochaine Fois, je viserai le cœur, sur ce gendarme tueur en série. Et en fait, ce milieu en fait dont il parlait, je trouvais ça très intéressant, vu aussi l'époque dans laquelle on vit, de parler de cette époque, une époque révolue, qui est post-68, avant le sida, avant la vidéo dans le porno. Et qui montre en fait des gens qui faisaient du cinéma avec une volonté du cinéma porno, mais avec une volonté aussi de faire du cinéma traditionnel, un amour du cinéma, de la lumière, des plans, de tourner en 35, de décors, de tout ça, des costumes. Et ils faisaient ça vraiment, ils appelaient ça à l'époque des films d'amour. C'était un marché qui marchait très très bien. C'était des films qui faisaient plus de 5 millions d'entrées en tout dans le cinéma porno chaque année. Et donc, c'est vraiment la fin de cette époque-là, d'insouciance, de liberté. Et ils sentent tous ces personnages-là que cette époque est en train de se finir. Et il y a dans le film, je trouve, dans le scénario, une nostalgie que l'on peut retrouver actuellement, je trouve, par rapport à l'époque dans laquelle on vit, d'une certaine nostalgie de certaines choses qui étaient peut-être plus simples, où on vivait peut-être moins vite. Mmh. Et on prenait plus le temps d'apprécier les choses.
Alors gardez-en sous le pied parce qu'on va en parler.
D'accord, pardon.
Non, mais pas du tout. Vous êtes là pour vous exprimer, mon cher Guillaume. mais avant de parler du film, eh bien, et avant de parler de cul, on va parler de culte. C'est l'heure de votre pop-list. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, votre choix se porte sur MOOC de Marc Boutavant. C'est une série de livres pour enfants parus chez Albin Michel à partir de 2007. Charline, vous qui préférez les livres aux enfants, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit?
MOOC est un ours globe-trotteur qui parcourt le monde avec son copain Charapa. À noter que Marc Boutavant est aussi le co-auteur avec Cola Gutmann d'une autre collection géniale pour les enfants, la série Chien pourri.
MOOC
Alors Guillaume Canet, d'où vous vient cette passion pour MOOC et pourquoi est-ce que c'est votre livre préféré au monde ?
Alors, d'abord parce que je savais que ça allait vous faire marrer. Deuxièmement, c'est que souvent quand on arrive dans des émissions, on nous demande de nous dire quel est votre livre de chevet, quel est... Et je me suis dit qu'il y a un moment, il fallait arrêter de mentir et de dire que je ne lis pas.
De prétendre.
Ou alors très peu. Et malheureusement, j'ai honte hein, de l'avouer, mais c'est vrai que je travaille beaucoup et que je suis un peu dyslexique et que quand je lis, je m'endors. Ah. Et que pour finir un livre, voilà, j'ai honte de le dire, mais c'est vrai que heureusement, mon fils ne reproduit pas le schéma et lui est fan de livres et lit est fan de MOOC. Et donc, quand on m'a posé la question, je me suis dit, bah MOOC, hein, parce que comme ce que je lis beaucoup en ce moment, c'est MOOC, on va dire MOOC. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous lire d'ailleurs un extrait de MOOC ?
Mais avec grand plaisir. Alors, à peine arrivé en Laponie, je m'aperçois que j'ai oublié mon sac. Dedans, il y avait un petit pull, des gants. J'en aurais bien besoin. Oh là là, j'ai une stalactite au bout du nez. Et la nuit qui est déjà là, alors qu'il est midi. Ah oui, je me souviens, en hiver, il fait nuit pendant plusieurs mois quand on s'approche du pôle Nord.
C'est merveilleux.
C'est magnifique.
Non, c'est merveilleux.
Ah ouais, c'est très bien.
Non, mais arriver à cette épure pour raconter une histoire.
Ah, pas mal, non ?
Ah oui, mais ça m'a fait retrouver une âme d'enfant.
Voilà.
Merci Guillaume.
Puis ça change un peu des autres réponses, j'imagine.
Ah, j'imagine.
Oui. On a assez peu eu MOOC, oui, effectivement.
J'en avais marre de répéter à chaque fois les accords Toltec et tout
Alors Guillaume, passons à votre film culte. Et ce film, c'est Il était une fois en Amérique. C'est un film de Sergio Leone, sorti en 84, troisième volet d'une saga portant sur l'histoire de l'Amérique. Charline, vous qui êtes ma Leone, comme Sergio et Leone, rappelez-nous de quoi il s'agit.
Une histoire de nouilles, c'est le nom du héros, qui malgré son pseudo n'a rien à voir avec le monsieur orange qui veut rendre l'Amérique Great Again, de la prohibition aux années 60, 45 ans de la vie de Noodles, le mafieux et ses amis, du ghetto juif de leur enfance vers la tête du crime organisé de New York.
Arnon Milchan presents a Sergio Leone film starring Robert De Niro. Once upon a time in America, the story of friends. As boys, they made a pact to share their fortunes.
Agreed.
Their loves and their lives.
You'll put up and you'll shut up. You hear nothing and you see nothing. Just like you did for Bugsy.
You was better off you stayed in the Bronx.
As men, they shared a dream to rise together from poverty to power.
Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Pourquoi choisir cette histoire de nouilles donc, Guillaume Canet?
J'ai toujours aimé les pâtes, déjà. Et non, mais parce que c'est un film voilà, avec lequel j'ai grandi, que j'ai disséqué dans tous les sens, que j'ai vu et revu, que j'adore. J'ai rencontré d'ailleurs le producteur à qui j'ai posé plein de questions, qui m'a raconté des anecdotes assez folles sur le film. Et je trouve que c'est un film qui allie exactement ce que j'aime au cinéma, c'est-à-dire le cadre, la lumière, la musique, qui la bande son est extraordinaire. Avec des acteurs formidables, il y a des scènes totalement cultes pour le coup, avec ce petit garçon qui décide qu'il va être suffisamment grand pour aller voir la pute qu'ils vont tous voir, et puis il faut lui apporter un gâteau, et il y a, je sais pas, une scène qui dure au moins 10 minutes en musique, où il est sur l'escalier en train de se demander s'il va vraiment lui donner ce gâteau, et il hésite, et puis il l'ouvre tout doucement, il le goûte, et puis il commence à le manger, et puis voilà, il retourne en enfance, et il bouffe son gâteau, et voilà, c'est mort. Donc c'est un film qui est vraiment somptueux, quoi.
Bien. Continuons cette pop liste avec la chanson. Cette chanson, c'est My Way de Nina Simone, enfin interprétée par Nina Simone, parce qu'à l'origine, c'était une chanson de Claude François, comme d'habitude, composée en 67 par Jacques Revaux. Elle a pour titre en français Comme d'habitude.
And now, the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full.
Une chanson qui est un peu l'histoire de notre vie, Charline, tout du moins dans sa version française. Hein. Souvenez-vous, je me lève, je te bouscule. Résumez-nous, s'il vous plaît.
Bah, c'est une vie conjugale des plus mornes, il faut bien dire ce qui est. C'est très déprimant.
Mm-hmm.
Non ?
Parler de la nôtre ?
Bah, je ne peux pas trop en dire non plus. Mais...
D'accord. Pourquoi cette version en particulier, Guillaume ?
D'abord parce que c'est vrai que la chanson en elle-même est très très belle, mais c'est vrai que la voix de Nina Simone est magique et j'adore l'orchestration, j'adore le tempo, le rythme de cette musique qui était le générique de fin en fait des Petits Mouchoirs, enfin de la scène de fin des Petits Mouchoirs. Et je trouve qu'elle a, voilà, il y a ce tempo qui s'accélère, qui monte et on monte en émotion avec sa voix qui est tellement fantastique et je sais pas, à chaque fois que j'entends cette chanson, j'ai une émotion particulière et je trouve qu'elle vieillit pas, elle est toujours aussi forte. On s'en lasse, moi en tout cas je m'en lasse pas de cette chanson et voilà pourquoi ça reste un morceau culte pour moi.
Bien, nous y sommes presque. Après le livre, le film et la musique, terminons avec la série. Et votre série culte, Monsieur Canet, c'est Wild Wild Country. C'est une série documentaire Netflix sortie cette année, réalisée par Chapman Way et MacLean Waugh. Charline, vous êtes picarde, vous savez ce que c'est que la campagne sauvage-sauvage. Hein. Alors, qu'est-ce à cause cette série de Way Waugh ?
Wild Wild Country s'intéresse au très controversé gourou indien Bhagwan Sri Rajneesh, dit Osho, de la communauté Rajneeshpuram,
bien,
et de ses disciples dans l'Oregon. Je soupçonne Guillaume Canet de l'avoir choisi uniquement pour nous entendre nous vautrer sur les noms.
Everybody felt they were there at the beginning of the great experiment. Like we were the chosen people.
Our vision was to create a community based on compassion and sharing.
Bhagwan's agenda was simply to raise the consciousness of humanity. That was his goal.
America was land of promise. It was my conviction we will have no problems.
Guillaume Canet, vous avez fait ce choix uniquement pour nous entendre nous vautrer sur les noms ?
Non, pas uniquement. Non, je me suis pris vraiment une grande, grande claque en voyant ce documentaire qui est au-delà de ce qu'il raconte et complètement fou. Il est très, très, très documenté, c'est le cas de le dire. Ils ont des images, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. On a l'impression que ça a été filmé. Enfin, on se demande même comment et pourquoi il y a eu autant d'images, en fait. Autant documenté, et c'est, je crois, 8 ou 9 épisodes. On est complètement tenu en haleine, constamment. On se demande ce qui va se passer, cette manipulation. Je peux pas trop en raconter parce que je voudrais pas spoiler non plus la fin de la série, mais donc, c'est une série documentaire sur une histoire qui s'est réellement passée dans l'Oregon avec, des situations dingues de ces gens qui sont dans un village juste à côté de l'endroit où cette communauté a désiré de s'installer, en fait, décidé de s'installer. Et cette communauté qui, au départ, est partie avec une idée, avec un assez sage, je veux dire, de se retrouver pour vivre bienveillante et de se retrouver dans l'amour et dans la paix. Mmh. Et les méthodes utilisées et ce qu'ils en font. Et ce que ça raconte, finalement, raconte beaucoup, je trouve, sur la manière dont on peut endoctriner aussi des gens et leur faire perdre raison.
Voilà. Wild Wild Country, c'est une série documentaire sur Netflix, sortie cette année. Bien, alors je résume. MOOC, My Way, Il était une fois en Amérique, et Wild Wild Country. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ben, ça nous donne ça.
MOOC, MOOC. America was... Land of promise.
Des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya.
It was my conviction, we will have no problems.
À peine arrivé en Laponie, je m'aperçois que j'ai oublié mon sac. Dedans, il y avait un petit pull.
Now, the end is near. And so I got to face.
Once upon a time in America.
Oh là là, j'ai une stalactite au bout du nez.
Dis-moi comment c'est là-bas.
Ça me ressemble assez en fait.
Bah oui.
Non mais c'est vrai par rapport à même ce que j'aime faire dans le cinéma et la diversité, le... Non, je trouve ça assez riche en fait comme comme
moi en tout cas, je vous y retrouve. Ouais. Bien, Guillaume Canet, Pop Break dans Pop 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 pour écouter un extrait de la BO du film L'amour est une fête avant d'en parler, ça s'appelle Come and Feel the Noise, c'est de Quiet Riot.
Quiet Riot, come on, feel the noise. Viens, approche-toi pour sentir le bruit. Pour le plus grand plaisir de Guillaume Canet, qui est notre invité aujourd'hui dans Pop Pop Pop. Guillaume Canet, vous avez posé votre pop potin dans le studio de Pop 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 pour nous parler de ça.
Le ministre exige qu'on en finisse avec le blanchiment dans le porno. Voilà notre vedette, Maurice Vaugel. Faut le flagrant délit. Vous faites affaire avec lui et vous me surveillez.
Le porno, c'est le cinéma le plus cool à faire. Tu veux travailler comme producteur pour moi?
Nous, on est partant, hein. Ça nous intéresse.
C'est un bon film, hein. Enfin, pas trop bien, parce que le public aime pas ça. Hein.
Ça, c'est donc « L'amour est une fête », le film de Cédric Anger qui sort ce mercredi. Deuxième collaboration avec Cédric Anger, après « La prochaine fois, je viserai le cœur ». Et pour dissiper tout malentendu et éviter de ne parler que de ça jusqu'à 17h, mettons tout de suite les pendules à leur place, comme disait Johnny, ce n'est pas un film sur le hard.
Non, pas du tout. Non, c'est un film sur le milieu, en fait. Quelque part, c'est la toile de fond, c'est deux flics, c'est une histoire vraie, hein. C'est inspiré d'un fait réel. En fait, c'est deux flics qui ont infiltré le milieu du porno dans les années 80. Dans cette parenthèse enchantée, comme je disais tout à l'heure, sur cette période avant la période du sida, avant la vidéo dans le porno, et donc ils doivent faire un flagrant délit et essayer d'arrêter toute une sphère de personnages en fait sur du porno en fait et du blanchiment d'argent. C'est pareil, c'est un prétexte. L'enquête, on s'en fout un peu en fait. L'intérêt du film, c'est de montrer ces deux personnages qui débarquent dans ce milieu, qui vont s'attacher à ces personnages qu'ils vont rencontrer, ne veulent plus les trahir parce qu'ils se sont attachés à eux, et montrer que ces personnages sont très attachants, très touchants, parce que ils ont ce désir, comme le personnage de Xavier Beauvois, qui est réalisateur de films porno, qui désire faire un jour un film traditionnel, ouais, qui veut faire Citizen Kane 2.
Arken.
Ouais, c'est ça. Et ils ont tous, voilà, ils sont tous, et je trouve que c'est aussi son talent, Cédric Anger, de faire exister des personnages secondaires, et de les faire vraiment, de les rendre très très touchants. Moi, j'étais extrêmement enthousiaste de faire ce film, d'abord pour retrouver Cédric Anger, qui est un vrai cinéaste et qui est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui d'en parler, parce que c'est toujours un exercice bizarre de venir à la radio, d'aller dans des émissions, parler des films, et on a l'impression de se répéter, dire la même chose, puis les gens écoutent ça à la radio comme ça. Dans un flux,
Dans un flux promo,
mais c'est vrai que...
Mais moi, qui vous connais quand même, Guillaume, je vous ai entendu en parler déjà, je sais que vous êtes très enthousiaste.
Ouais, je suis enthousiaste parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire des films au cinéma, parce qu'il y a maintenant les séries, il y a moins en moins de gens qui vont au cinéma, et que, en fait, c'est un vrai objet cinématographique. Je trouve que c'est un film qui prend son temps, qui a une certaine liberté aussi, parce qu'il va dans plein de genres différents. On peut pas dire que ça soit une comédie, on peut pas se dire que ça non plus que ça soit un film noir ou un film d'enquête. C'est un voyage dans ce temps-là, dans cette époque qui est révolue. Il n'y a pas de jugement par rapport à ce que c'était, à ce que c'est aujourd'hui. C'est simplement, on montre ce que c'était à l'époque. Et je trouve qu'il y a une certaine nostalgie qui est intéressante par rapport à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, où on est quand même beaucoup dans le jugement, on est beaucoup dans... Et ça fait du bien, j'ai l'impression que c'est un petit moment de paix, quoi.
Le film se déroule donc en 1982, sauf erreur de ma part, vous aviez 9 ans à l'époque, donc pas du tout l'âge de fréquenter le genre d'endroit dans lequel est située l'action. Non. Pour vous préparer, est-ce que vous avez dû visionner des heures et des heures de loops, vous familiariser avec le monde des peep shows, enfin un truc très méthode, quoi?
Non. Non, je me suis dit que ça allait aller tout seul. Non, j'avais mes souvenirs d'ado, je dirais, mais même si c'était une autre époque.
On peut en parler.
Non, ça va aller. Je pense qu'on allait même.
Ah, j'étais déjà plus ado, moi.
Oui, c'est vrai.
Non, mon cher Guillaume. Non, c'est pas tout à fait, mais bon. L'idée d'un cinéma hédoniste, artisanal, pratiqué par des comédiens qui venaient plus par plaisir que par nécessité, enfin disons un mélange des deux, dans la foulée de la libération sexuelle de l'après 68, c'est une époque que vous fantasmez?
C'est une époque, en tout cas, qui...
Vous parliez de nostalgie, mais...
Non, mais parce que c'est vrai que peut-être j'en parle en réaction à l'époque actuelle, en fait, où effectivement, je heureusement, il y a des choses qui évoluent, il y a des conditions aussi, comme la condition de la femme, par exemple, qui évolue, et bien heureusement, maintenant, il y a certaines... Moi, c'est plutôt sur un mode de vie, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que là, on voit des personnes... séparés au départ, qui vont se rencontrer, qui vont créer une production, vouloir réaliser des films, faire des films ensemble. Et c'est marrant parce que j'ai deux films en ce moment que je défends, qui sont Le Grand Bain et ce film-là, où c'est des gens qui font faire des choses ensemble. Et qu'aujourd'hui, on est plus en plus... on vit de manière solitaire. On a des réalisateurs qui désirent faire des films chez eux, sans acteur, avec leur ordinateur. On a des spectateurs qui voient des films chez eux, tout seuls, en cliquant sur un lien. Et j'ai cette nostalgie-là, moi, quand même, d'un endroit où on se réunissait tous ensemble pour faire des choses, ou aller voir des films, ou alors... Voilà, c'est pas du tout le discours d'un vieux con qui a l'impression que tout est fini, hein. Mais j'ai un petit sentiment comme ça de nostalgie.
Ouais. Dans ce qui a changé par rapport à cette époque-là, je rebondis sur vos propos, il y a évidemment la condition de la femme. Comment la nostalgie de cette époque libertaire va-t-elle être reçue dans un monde post-Weinstein comme celui dans lequel nous vivons?
Elle va être reçue comme simplement un retour en arrière, à simplement observer comment c'était avant. C'est pas de dire le film ne dit pas c'était mieux avant. Quand on fait un film où on traite d'une époque, simplement on montre l'époque telle qu'elle est. Donc c'est pas une comparaison. C'est simplement une volonté, j'imagine, de la part de Cédric de parler de cette époque-là. Voilà. Et c'est un film assez original parce que il y a eu Boogie Night qui a été fait aux États-Unis, mais pour le coup, qui était vraiment une autre production, une autre entreprise, une autre industrie, en fait, qui était le milieu du porno aux États-Unis.
C'était l'histoire d'un personnage.
Voilà, et puis c'était pas. Donc, je lis beaucoup de scénarios, j'ai cette chance-là, mais j'en lis pas beaucoup des bons. Hélas, voilà, c'est un film qui simplement, sans forcément porter de jugement ni de comparaison, décrit une époque. Alors après, on peut, s'il y a des gens qui ont envie de s'offusquer sur le fait qu'on parle d'une époque...
Non, mais c'est un sujet devenu plus sensible aujourd'hui qu'il y a 2 ans.
Non, puisque ça raconte surtout de cette industrie-là, c'est qu'au moment où ça arrive, les gens sont consentants. Les jeunes femmes, enfin tout le monde y va, enfin c'est ce que le film montre.
Oui, et puis c'est ce que tous les gens qu'on a rencontrés, les acteurs, les actrices de cette époque, qui jouent d'ailleurs dans le film, et qui étaient à l'époque des acteurs et actrices de porno, nous racontaient que c'était... une ambiance extrêmement conviviale, qu'ils étaient heureux de partir ensemble dans des châteaux, dans des décors de dingue, ces films-là, et voilà, c'était...
Mais ça vous a fait le même effet, parce que pendant l'une des avant-premières, en l'occurrence celle de la Cinémathèque, vous avez dit devant le public qui était là que c'est un des films que vous avez eu le... enfin, des personnages que vous avez eu le plus de mal à quitter, en fait.
Ouais,
c'est ça, à cause de cet esprit de groupe et de...
Je sais pas si c'est pour ça que je suis aussi véhément sur cette... enfin, en tout cas, aussi passionné sur cette promo de ce film, mais c'est parce que c'est la deuxième fois, effectivement, que ça m'arrive de jouer des personnages qui sont pas forcément des personnages très hauts en couleur, enfin très sympathiques sur le papier, parce que le premier c'était un tueur en série, mais en fait Cédric arrive vraiment à créer une atmosphère, un univers très très fort où on a l'impression vraiment de vivre les situations. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y avait des séquences comme quand on était à la campagne, sur une terrasse, devant la maison, en pleine soirée, en train de boire des coups, et on savait pas trop quand y filmer. Il y avait un truc comme ça très très sympa, et je disais que c'est des moments où on aurait bien passé un peu plus de temps ensemble, en fait.
Dans cette période que vous évoquez, il y avait aussi...
Après, je peux aller très très vite, par rapport au jugement que les gens peuvent avoir sur le film et sur l'époque, après, je pense que c'est aussi le propre de l'art et de créer, de proposer des choses.
Oui.
Après, s'il y a des réactions, si ça suscite des réactions...
Il y a beaucoup d'humour aussi. Le rire n'était pas forcément limite de la volupté à l'époque. Il y avait des titres de films très marrants, par exemple, Quai des Burnes, Scarface... Vous avez en mémoire des titres comme ça qui vous ont fait marrer?
Là, dans le film, il y a Clito de 5 à 7, il y a je sais plus, il y a toute une des jaquettes là qui passent à un moment, on en voit plein, et c'est vrai qu'il y a des titres assez...
Il y en avait un qui était pas mal, c'est Allonge-toi dans le sable et fais jaillir mon pétrole.
Ouais. Sérieusement?
Ben oui, sérieusement, bien sûr. Je suis toujours sérieux.
Le film est pas loin d'être un film choral, avec des personnages forts en gueule et en couleur, hein, le trio Faux, Lelouch, Beauvois. Franck, votre personnage, à part un petit souci, on va dire, de consommation, et presque plus sage, plus calme, plus intérieur. Est-ce que ça vous a rendu la tâche plus compliquée de vous ajuster par rapport à toutes ces...
Non, moi j'aimais assez ça. J'aimais assez d'être un personnage un peu en distance comme ça de tout le groupe, qui est moins fêtard, en fait. Il a la fête solitaire, lui, en fait. Et c'est, ça le rend peut-être un peu plus triste, mais c'est un personnage un peu à la Delon dans le Samouraï, en fait. C'est un personnage, oui, un peu fermé, un peu noir, mais qui va évoluer tout au long de l'histoire, qui passe un peu, comme disait Cédric, du noir et blanc à la couleur. C'est un personnage qui va découvrir qu'il peut avoir aussi des sentiments et avoir un regard amoureux sur quelqu'un, ce qui va être le cas parce qu'il va avoir une rencontre pendant le film. Et je trouve que c'est un très très beau personnage qu'il m'a offert encore.
L'amour est une fête de Cédric Anger dont nous allons reparler dans quelques instants avec Guillaume Canet, notre invité, juste après cette petite pause. Vous savez tout faire, hein, je sais, Guillaume. Alors, rien à voir avec le sujet du film, quoique, est-ce que vous savez faire ça? Il sait le faire.
Pas mal.
Ah, vous avez même un pop assez grave que je vous envie. Essayez. Non, c'est un coup de bol. Ah, il est beau, non? Par rapport au mien.
Je vous laisse faire le concours.
Non, c'est pour ça. C'est juste pour lancer les pop news.
Après avoir repris Toto et Africa, voici que Weezer se lance dans une reprise d'un genre musical différent. Sur scène à Chicago, Rivers Cuomo a lancé au public. On a appris quelques grands classiques punk avant de jouer ceci. Une reprise de Blink-182, The Small Things, pas exactement les Ramones, donc, hein, et si vous posez encore la question, oui, les gars de Weezer ont beaucoup, beaucoup d'humour.
Une incursion dans le milieu des skaters des années 90, c'est ce que propose le comédien Jonah Hill pour son premier passage derrière la caméra avec Mid-90s. L'histoire de Stevie, jeune garçon partagé entre sa bande à roulettes et une vie de famille agitée.
A lot of the time, we feel like our lives are the worst, but I think if you looked at anybody else's closet, you ain't trade your shit for their shit. So let's go.
That's why we ride a piece of wood, like what that does to somebody's spirit.
Le film a été présenté au Festival de Toronto. Les premiers échos sont excellents, sortis en octobre aux États-Unis et on l'espère rapidement chez nous.
Et J-5 avant ceci.
Je suis occupé sur le bateau, pourquoi ne parles-tu pas maintenant?
Je ne peux pas.
Puisque je te dis que tu peux.
Je ne veux pas.
Faites un effort, Oscar. Je vous ai dit qu'Ingrid parlait russe couramment.
Tu me prends pour une imbécile?
Vous allez être si heureuse de votre nouveau visage.
Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule!
Ce samedi, c'est la nuit Nanarland au Grand Rex à Paris, troisième du genre, manifestation cinéphile qui met à l'honneur des films, différents. Au programme, des bandes annonces collector, des films de ninja aérobic, oui ça existe, et la projection de Whitefire, Vivre pour survivre le diamant, selon l'équipe, je cite, le chef-d'œuvre absolu de Jean-Marie Pallardy, leur réalisateur préféré de tous les temps. La nuit Nanarland au Grand Rex, c'est samedi, c'est inratable, info et résa sur nuitnanarland.com.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi. J'aime beaucoup. L'amour est une fête.
Merci Charline. Guillaume Canet, ne bougez pas, on va continuer à parler de vous avec vous, juste après Carole, c'est un morceau mythique de Chuck Berry. We'll be right back.
Chuck Berry, Carole, c'était en 1958. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Guillaume Canet pour parler de ce film qui sort mercredi, un très beau film intitulé « L'amour est une fête ». D'ailleurs, ça vient d'où ce titre, « L'amour est une fête »
Je ne sais pas, c'est Cédric en fait qui a proposé ce titre, mais je suis incapable de vous donner la réponse.
Il se dégage en tout cas du film une certaine douceur, voire de l'insouciance. Est-ce que c'est aberrant de le qualifier de « feel good movie »
Non, mais enfin moi j'ai du mal en fait avec l'idée de toujours placer un nom, un mot sur sur quelque chose en fait.
C'est pour donner une impression.
Ouais non mais bien sûr c'est un peu ça en tout cas l'impression en tout cas ce qui est très agréable c'est de voir la réaction des gens. On a été un peu partout en province présenter le film et les réactions des gens sont vraiment très très bonnes et à la fois surprise en fait. Les gens viennent voir le film, j'imagine aussi parce qu'on est là et qu'ils viennent voir une équipe de film et ils savent pas trop ce qu'ils vont venir voir. Mmh. Et en fait, beaucoup de gens et beaucoup de femmes aussi étaient surprises en disant que elles avaient adoré le film, elles avaient passé un très bon moment avec ces personnages et elles s'attendaient pas du tout à voir ça. S'attendaient justement à voir un film porno ou à voir ce qui n'est pas absolument pas le cas. Donc elle ressortait et une dame a justement dit qu'elle se sentait qu'elle avait envie de passer du temps aussi avec ces gens-là. Donc voilà, donc je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas elle se sentait bien.
Guillaume, vous le rappeliez tout à l'heure, pour vous dans les films X de cette époque, hein, on parle de la fin des années 70, début des années 80, il y a, je vous cite, un désir de cinéma, un souci esthétique, un véritable travail sur le texte.
Sur le texte, j'ai dit.
Oui, vous l'avez dit.
Ah ça,
oui,
c'est
vous
pas
l'avez
possible.
Dit. Oui, si, si, si.
Non, ça c'est pas possible.
Vous l'avez. Je vous cite.
Non, alors c'est une connerie. Mais...
alors attendez.
Non, mais pas le texte. Non, pas le texte. Non.
Attendez, vous savez, pop, c'est aussi de l'investigation. Et comme on parle de scénario, j'ai retrouvé celui du film Le plus dur est derrière toi. Je mets donc mes lunettes. Il y a un passage que je trouve assez fort. C'est bon, alors j'ai pas le ton, hein, mais là, c'est la page 12. Qu'est-ce qui vous marque tant dans les scénarios de l'époque
vous savez qu'en fait, ils nous racontaient justement, les acteurs et les actrices du film nous racontaient qu'ils avaient, ils se fendaient la gueule justement à dire leur dialogue qui était complètement con, mais ils le faisaient avec un immense plaisir parce que c'était complètement débile les situations. Et non, franchement, c'est eux qui devraient faire la promo, ils en parlent tellement bien que...
Et alors, petit point cheveux et colorimétrie, dans le film vous êtes presque platine, alors répondez Guillaume Canet, est-ce que les blondes have more fun?
Je sais pas. En tout cas, lui, il est pas que dans le fun, hein, ce personnage. mais ouais, je sais. J'ai essayé de me rappeler en fait pourquoi j'ai décidé de me teindre en blond. Et je sais pas ce qui m'a pris, mais.
C'est votre décision. C'est pas votre réalisateur qui vous
l'a demandé. Non, c'est moi qui ai décidé ça, mais j'en suis ravi parce que je trouve que ça va bien avec le personnage.
Guillaume, vous étiez ado, hein, vous le rappeliez tout à l'heure, dans les années 80. Dites-moi, il évoque quoi pour vous ce son?
Le décodeur.
Oui.
Le décodeur absent.
Alors, vous étiez plutôt team passoire ou team abonné, vous?
Bah non, team passoire, oui. Mm-hmm. Ouais, bah c'est vrai que j'en parlais l'autre jour dans une interview du fait que j'avais entendu à l'école, effectivement, que... En fait, ça pouvait marcher de regarder Canal sans décodeur, avec la passoire.
Vous avez vraiment essayé, donc?
Donc, oui, j'avoue que j'ai essayé. J'ai pas essayé pendant 10 minutes, hein, mais je me suis très vite rendu compte que c'était une connerie. Hein.
Alors, le porno au cinéma, c'est pas la première fois que vous y goûtez. Vous avez déjà dirigé des acteurs pour une scène. C'était pour les besoins du Hollywood Boulard, dans l'émission Crac Crac de Monsieur Poulpe sur Canal+.
Action!
Ok, Ava, alors tu vas récupérer le marteau et tu vas aller renforcer les barricades, tu vois, derrière toi. Et tu vas dire, oh, il faut absolument que je comble ces deux trous.
Oh, il faut absolument que je comble ces deux trous.
Oh, mais je n'avais jamais remarqué que ce marteau était si dur.
Ah, je n'avais jamais remarqué que ce marteau était si dur.
Bon, c'était le Hollywood Boulard, hein, la séquence de Poulpe.
C'est pas moi qui ai écrit le texte, hein, non plus.
C'est ça, défaussez-vous. Défaussez-vous. Bon, votre film, vous, c'est L'amour est une fête, avec toute une bande d'acteurs, les Lelouch, les Faux et compagnie. Enfin,
très beau film choral.
Michel Faux est formidable dans le film, vraiment extraordinaire.
Bien, ça sort mercredi. Je vois l'heure et je me rends compte qu'il est exactement l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission et je vais vous emmener avec moi.
Allez,
oui, d'accord.
Allez.
Venez. Alors. Venez, descendez. Faites gaffe, ça glisse un peu. Je vais vous présenter mon chat Jean-Marie.
Un peu frais dans la cave.
C'est frais, hein?
Ouais.
On va se réchauffer très vite. Il est borgne, mais il est très sympa. Salut Jean-Marie, comment ça va? Comment ça, mal? Ah, tu veux voir L'amour est une fête? C'est une bonne idée, ça, mais écoute, je t'emmènerai mercredi prochain au cinéma, si tu veux, on ira à la séance de 14h. À l'Escurial. L'Escurial. Bon, enfin, si je peux entrer avec un cheval, bah oui, tu sais que le plan Vigipirate, ça s'est un peu durci. Hein. Quoi? T'aimerais bien être aussi un peu durci? Je vois pas le rapport, là. Ah, parce que à la cave, l'amour, c'est pas une fête. T'es condamné à vivre ici avec Henri. Henri, c'est... Alors, petit 1, c'est un cochon. Et petit 2, vous êtes tous les deux des mâles alpha, c'est ça? Quoi? En plus, il y a un problème de taille? Jean-Marie, c'est pas la taille qui compte. Qu'est-ce que tu dis, Henri? Quoi?
Un cochon, cette cave, hein.
Qu'est-ce que tu dis? Un cochon, c'est pas fait pour se prendre un gourdin des talons dans le pion. Quoi? Bon, écoute, on réglera ça plus tard. Hein. Je suis pas venu là pour ça. Je suis venu avec Guillaume, qui est un excellent cavalier, et qui voulait faire un tour de cave avec toi. C'est possible? Jean-Marie, Guillaume, Jean-Marie.
Bonjour, Jean-Marie.
Voilà. Alors, attention, Guillaume. Il est un petit peu nerveux, hein. Et comme il a eu personne sur le dos depuis des mois, bah, il est un poil incontrôlable. On y va? Vous montez en selle?
Allez.
Allez!
Oh! Oh, la bijou. Oh, la bijou.
Oh, bon, bon. Wow, wow.
Voilà, attention.
Vous tenez?
Ouais.
Bien quand même?
Ouais, ouais, ouais.
Faites gaffe, hein.
Attention.
Oh, wow, 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 attention, accrochez-vous, Guillaume, quand même. Hé, hey, c'est du rodéo, là. Guillaume. Bon, hé, hey, lancez un morceau, là-haut, Guillaume, parce qu'on va casser comme des murs, vite. Oh, musique. Ah.
Oh, ma jolie Sarah, c'est bien évidemment un morceau de Johnny que vous venez d'entendre dans Pop 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 sur France Inter. Guillaume Canet, une des dernières apparitions de Johnny au cinéma, c'était dans votre film Rock'n'Roll, film dans lequel Johnny jouait son propre rôle. Tourner avec Johnny, c'était, je vous laisse compléter.
Bah, c'était déjà un rêve, c'était assez, même le jour où il est arrivé sur le plateau... Je sais que pendant tout le tournage, je pense qu'il est intervenu à peu près trois quarts du tournage et jusqu'au jour du tournage, je me suis dit qu'il allait avoir un truc, quoi, qu'il y a un truc qui allait se passer où il allait pas venir, où il pourrait pas venir, où il allait annuler. J'avais du mal un peu à y croire. Et c'est vrai, quand il est arrivé, il y a eu un silence, un calme sur le plateau. Tout le monde était complètement subjugué et heureux de le voir. Et on a vu un homme hyper timide, content, passionné d'être là, qui a toujours eu cette passion pour le cinéma depuis sa tendre enfance et qui était et voilà, il est ouais, c'était très émouvant de le voir sur le plateau. Et quand il est reparti le lendemain soir, parce qu'il est resté deux jours, voilà, on avait tous vécu une parenthèse assez dingue, quoi.
Bien, merci Guillaume pour ce petit souvenir. Un homme qui était capable d'une grande autodérision, exactement comme
vous.
Ah
oui, ouais, il en a fait la preuve. Ouais.
Je vous en félicite, continuez comme ça. Merci Guillaume Canet,
merci.
L'amour est une fête, ça sort ce mercredi. C'est recommandé évidemment par Pop Pop Pop. Demain dans Pop Pop Pop, Jacques Audiard. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yev à la pointe, suivez-nous, plutôt comme disent ceux qui font des tutos Jackie et Michel sur YouTube.
Abonnez-vous à notre podcast. Hein.
C'est un truc de
Charline.
Bonjour Antoine.
Bonjour Charline. Qu'est-ce qui va se passer dans Paris Jupiter dans quelques instants?
On est à la fois fébrile et fou de joie. On reçoit Anna Karina.
Ah.
Eh, parce que La Religieuse de Jacques Rivette sort en version restaurée. Non censurée, je précise.
Une excellente bonne raison de la recevoir. On va vous retrouver juste après les infos.